RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story, tous les jours, les grandes gueules en direct avec vous. Et si vous avez raté les GG, vous passez par l'appli RMC ou le site internet rmc.fr et vous pouvez récupérer les GG en podcast. Aujourd'hui, on a dans les grandes gueules Kaouter Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère, et avec nous Bruno Poncé, qui est cheminot.
Qui est en colère aussi, c'est pas pourquoi, mais toujours en colère.
Ah, c'est ça, ça maintient la forme.
Voilà. Mourad Boudjelal est avec nous aussi, éditeur de bande dessinée.
Moi, je suis pas en colère.
Jamais.
C'est vrai.
Mourad,
la force tranquille.
La zénitude incarnée.
C'est vrai.
Mourad, tu pourrais lui mettre monnaie de Pink Floyd, tu sais, comme jingle, c'est grave.
Mais à mon avis, c'est infocal.
La caisse enregistreuse.
Bah oui.
Tu es infocal, non, Mourad? Quand ça pète, ça pète.
Voilà. Quand j'ai deux fils qui se touchent, c'est compliqué.
C'est ça.
Que va-t-il se passer d'ici midi dans les GG, dans les grandes gueules? Tout à l'heure, on a un GG 7 et match à 11h20 avec une équipe Mourad Olivier face à Kaouter et Bruno sur ces Français peut-être qui ont tendance à un petit peu trop se plaindre. Alors que finalement, en France, l'inflation est plus basse qu'ailleurs, qu'on a les boucliers énergétiques, on a des chèques qui sont faits par le gouvernement. Donc, est-ce que les Français se plaignent trop? 32-16 pour en parler avec les GG. En attendant, allons-y pour « À vous de choisir ».
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
Quel sujet avez-vous choisi? Vladimir Poutine, tsar de Russie, qui va aujourd'hui faire célébrer sa cérémonie d'annexion des territoires ukrainiens, ou bien les dégonfleurs de pneus SUV? Si je me fie au vote qu'on vient de nous transmettre, c'est les dégonfleurs de pneus SUV qui vous gonflent, si je puis dire, parce que vous voulez en parler. Alors, c'est une tendance qui est née en Scandinavie, notamment. On l'a vu à Londres, on l'a vu en Belgique, on commence à le voir maintenant en France. Il s'agit pour une frange radicale de l'écologie, Olivier, de dire stop à ces monstres des villes que sont les SUV.
Enfin, monstres des villes, c'est le SUV, c'est partout, hein, c'est plébiscité. C'est-à-dire souvent les femmes qui choisissent les SUV parce que c'est des véhicules qui sont sûrs. Enfin, en tout cas, ils sont ciblés par les activistes écologistes qui dégonfle les pneus pendant la nuit. Alors c'est pas très courageux le mode opératoire parce qu'on attend la nuit.
Pendant la journée, ils roulent.
Pour éviter de tomber sur les propriétaires, bien entendu. Alors ils utilisent de petites billes qu'ils insèrent dans le bouchon de valve et ensuite ils remettent le bouchon sur le pneu et peu à peu le pneu se dégonfle. Et le matin, donc le propriétaire du véhicule constate que son véhicule est dégonflé. Et alors souvent ils affichent aussi, ils mettent une petite affiche sur la voiture pour expliquer pourquoi sa voiture a fait l'objet d'une dégradation. C'est un mode d'action qu'on voit un peu partout maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils ont raison de s'en prendre ainsi au SUV? Alors le problème, moi je trouve, c'est que ils sont pas toujours très malins parce qu'ils font pas la distinction entre les SUV électriques ou non. Il y a des SUV qui sont classés.
Ils feraient pas ça déjà.
Il y a des SUV qui sont classés critère 1.
Ouais.
Donc ils devraient les laisser tranquilles. Non, en général, ils s'attaquent à tous les SUV.
Moi, j'ai une petite question franche à vous poser. Tiens, vous êtes propriétaire de SUV. Vous voyez quelqu'un là qui dégonfle le pneu. Vous engagez le dialogue avec lui?
Non, je lui éclate la tête.
Attends, tu fais quoi, Kaouter?
Je le prends à coup de manche à balai. Je vais chercher un balai. Je lui éclate la tête au risque d'éclater ma voiture avec. Je rigole. Et c'est quelqu'un qui est à pied. Mais de quel droit tu fais ça? Moi, on a déjà parlé ici. C'est hyper dangereux en fait. Tu vois, tu es en retard le matin. Tu as tes enfants. Tu as un enfant malade. Il faut aller à l'hôpital. Tu as des infirmières. Mais de quel droit? Si tu es un vaillant et que tu dis, ouais, tu vas chez les constructeurs, ouais, et tu fais une opération chez les constructeurs, tu vois, mais tu laisses les particuliers tranquilles.
Moi, ça peut avoir des vraies conséquences.
Mais bien sûr, et tu fais ça devant moi, mais même si c'est pas mon SUV, moi j'ai pas de voiture, j'habite en centre-ville, je fais tout à pied, mais tu fais ça à ma voisine, mais je t'éclate la tête quand même.
Carrément.
Ah oui, ben voilà, ben tu joues. Eh ben on
pas
joue.
Pas intérêt à débarquer à Marseille.
Non, mais voilà.
C'est jamais. C'est la plus belle la vie. Hein.
Alors, Bruno Poncé.
Ah, le sujet, effectivement, quand tu mets ça sur la table comme ça, déjà le coup de la bille, moi je trouve que ça va trop lentement. Il faudrait carrément aller plus vite quand tu veux dégonfler les pneus. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est que comment t'autorises aujourd'hui de faire rouler des véhicules comme ça dans les villes alors que c'est des trucs qui polluent plus 4 fois plus qu'une voiture normale? À un moment donné, je pense qu'il faut être aussi raisonnable. La mode des SUV, c'est assez récent, c'est moins de 15 ans, je crois. Et tu te rends compte que ces voitures-là polluent. Et en ville, j'arrive pas à comprendre. Enfin, moi, je retrouve des fois derrière des bagnoles en ville. Je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent là?
C'est autorisé. Bien sûr que c'est pas ces jeunes de décider si ça doit être autorisé.
Exactement. Le truc, ce serait de changer la loi. Mais alors après, l'histoire.
Toi, tu veux interdire les SUV?
On dit des jeunes, c'est pas si.
Moi, j'interdis toutes les voitures en ville et maintenant, tous en vélo, en machin, allez hop, faites. Mais oui, parce qu'il y a
un bus qui fonctionne bien en plus en ce moment.
Mais oui, mais en bus,
sans chauffeur.
Ah oui, sans
chauffeur.
Sérieusement.
Ah, mais c'est le monde rêvé de Bruno.
Attends, il faut interdire même aux constructeurs de fabriquer des SUV.
Non, je suis pas.
Pour avoir des petites voitures qu'on pourrait appeler les Trabants, par exemple.
Ah, ce serait pas mal, ouais. Ça polluait pas mal. Je sais pas si tu verrais le moteur que c'était.
Et on pourrait les partager, parce que forcément, dans des appartements qu'on partagerait également, qui seraient collectifs.
Oui, mais voilà, un Colcos, un
tout ça. On pourrait essayer.
Oui, on devrait. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait tous la même voiture.
Mais non, mais il y a un vrai sujet aujourd'hui.
De la même couleur.
Aujourd'hui, le centre-ville. Centre-ville des grandes villes sont trop. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu peux. Dans Paris, tu vois, le fait que la maire de Paris.
Pardon, mais il y a de moins en moins des SUV dans Paris. Les Parisiens.
Et puis, de quel côté.
Plus que 40% voire des voitures, là.
Oui, mais sauf que dans 40%, t'as certainement plus de 50%, c'est des SUV.
Et donc, tu comprends pourquoi ils dégonflent.
Non, mais je. À un moment donné, quand tu veux changer la société, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas doucement, tu. Comme je te disais tout à l'heure, tu vas au Sénat, tu fais une loi dans 15 ans, et puis dans 15 ans, évidemment,
ça
brûlera.
Tu peux,
pour changer la société, des fois.
Pour la changer, il faut que la majorité ait envie de la changer. Oui. C'est la base, ça.
Oui, on est d'accord.
Alors, t'as un SUV, Mourad, ou pas?
Oui.
Mais non, un Cayenne, c'est pas un SUV, c'est Toyota, c'est un 4x4.
Et un Range Rover.
C'est un peu la Toyota.
Bon.
Et t'habites pas dans la.
Mais je pense que ça va au-delà de l'écolo. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de très belles voitures. J'ai eu des Ferrari, j'ai eu des Maserati, et. Je peux vous dire que plein de fois, je les ai retrouvées refaites à la clé.
Ah, ça, pardon.
C'est dégueulasse. Rayé.
Voilà.
C'est dégueulasse.
Donc ça va au-delà, à mon sens, ça va. Il y a une partie écolo, mais ça va bien. Il y a de la haine sociale. Il y a pas le mec qui prenait plaisir à me prendre à la Maserati que je garais sur un parking, mais je l'ai retrouvé. Le mec, il avait pris plaisir à rayer. Alors, mais effectivement, surtout, si je le rencontre, je pense que je ne ferais pas serrurier. Mais
ouais, non, mais je comprends. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des voitures comme les tiennes. Moi, je me suis déjà fait rayer ma bagnole parce qu'elle était noire. C'est une Golf noire, on se fait rayer, tu vois.
Oui, mais donc c'est un peu quand même. C'est un peu ça.
Non, tu dégonfles, Alain. Olivier, tu dégonfles. Tu casses rien.
Ce qu'ils font, c'est aussi. Ils pensent que le SUV,
c'est un signe de richesse. Alors que.
C'est une richesse.
Je pense que les riches, leur SUV, ils ne dorment pas dehors déjà.
Commencer.
Voilà, donc pour moi, c'est de la stupidité pure et dure.
Moi, je te pose une question, Bruno. Tu as des enfants?
Non.
Non, mais c'est heureusement, oui.
Heureusement pour eux.
Non, mais tu as un enfant, il est malade en pleine nuit, tu dois aller l'amener à l'hôpital. On t'a dégonflé les pneus, tu fais quoi?
Mais moi, je prends la moto, je prends le vélo, je l'emmène.
Non, mais je comprends
tout à fait.
On t'appelle, on te dit ta mère a fait une attaque cardiaque, il faut que tu viennes tout de suite.
Ce qui devient insupportable, c'est cette espèce de dictature écologiste que nous vivons aujourd'hui avec une dictature punitive où on a l'impression que ce qui se passe en France. C'est ce qui va, ça sera la tragédie pour le monde et que la France va impacter la planète entière. Alors qu'on est juste dans l'écologie punitive. Non, aujourd'hui, on représente que dalle sur cette planète.
Plus que punitive, c'est radical. Non, mais en fait, ce que dit Bruno, il dit soit on change les choses progressivement, soit on est radical.
Il y a une majorité qui va les changer.
On change tout du jour au lendemain. Il y a une tendance écologique. Alors, ils sont pas tous d'accord les écolos, parce qu'il y a des écolos quand même qui sont plus réalistes, mais certains qui disent il faut être dans la radicalité. Moi, je pense que malheureusement dans l'histoire de l'humanité, la radicalité ça a quand même créé en général beaucoup de malheurs.
Oui.
J'ai pas d'exemple de radicalité qui ait fonctionné, parce qu'en général la radicalité c'est décidé par un petit groupe de personnes contre tout le monde, et en général ça se termine mal, parce qu'il y a toujours en plus radical que toi. Hein.
Oui, puis la révolution de 1789, derrière, tu mets en place un régime très autoritaire
têtes tombent. Donc il faut quand même se méfier de la radicalité. C'est peut-être lent le changement, mais on voit bien que ça change. Dans les villes, il y a de moins en moins de voitures, les gens font du vélo. Les véhicules sont de plus en plus propres, sincèrement.
Ouais, c'est
ça n'a rien à voir par rapport à la bagnole de nos parents qui polluaient.
Non, mais je suis d'accord avec vous, et comme dit Mourad, il a raison. C'est qu'à un moment donné, moi, je suis d'accord sur le fait que déjà, il faut que la majorité soit d'accord, mais le sujet, c'est que moi, je trouve que les gens s'attaquent pas aux bonnes personnes. C'est pas parce que tu as dégonflé le SUV de ton voisin que tu vas changer le monde. Par contre, il faut aller face à ton gouvernement, face aux dirigeants, et leur dire ça va pas changer. Mais comme les gens, quand ils votent toujours, enfin, ils donnent un chèque en blanc, puis après, ils s'en occupent plus. Sauf que c'est pas vrai. Et aujourd'hui, tu vois, là on vient de vivre un été catastrophique pour l'écologie, mais ça, c'était annoncé depuis des années. Or, on fait rien, on laisse faire le truc. Et aujourd'hui, si tu penses que dégonfler les pneus de ton voisin, ça va empêcher les forêts de brûler et qu'on monte à 45 degrés dans 3 ans tous les jours, ben non, mais par contre,
il faut s'attaquer au problème. Le succès du SUV, il a des explications.
C'est la sécurité, essentiellement.
Souvent, d'ailleurs, les femmes qui choisissent parce que c'est sûr.
Ouais, tu
c'est
mal, confortable,
c'est un peu en hauteur.
Ouais, en hauteur, ouais,
non,
sais,
mais
ouais.
C'est vrai, tu vas voir. Va voir les concessionnaires, ils te disent souvent les SUV, non, mais... c'est plébiscé parce que c'est la sécurité.
Je vais répéter quelque chose que j'ai dit. On a eu un débat ici sur les commerçants qui laissent leur vitrine allumée. Voilà. Cet été, j'étais à Times Square. Ça fait rigoler le débat qu'on a eu. Parce que quand tu vois ce qui se passe là-bas,
le débat sur les SUV aux États-Unis,
le petit,
tout le monde,
le petit commerçant qui laisse sa vitrine allumée, aujourd'hui en France, on le culpabilise par rapport à ce qui se passe là-bas.
Dans le métro, avant, on avait des affiches publicitaires papier. En papier. Maintenant, c'est des affiches qui sont sur des écrans qui clignotent. Il y en a.
Il y a plus de papier déjà.
Non, mais il y en a 3 à 4 par quai, si tu veux. Donc voilà, ça fait rire. D'un côté, tu vas fracasser la voiture de quelqu'un qui a peiné pour travailler, peut-être qu'il a payé en crédit, tout ça, etc. Et à côté de ça, tu as des pubs partout, tu as tout qui est allumé, tu as tout le monde qui profite de tout, tu as une Coupe du Monde au Qatar où c'est, voilà, jackpot. Il faut arrêter de. Il va s'il a envie, en fait. Je t'explique, c'est pas toujours pareil.
Tu vois, je ne suis pas dans les deux catégories ciblées.
Ça a été
donc
décidé il y a quelques années, tu vois. Donc, quand tu as un problème, tu le dis à ceux qui décident, pas à ceux qui consomment derrière, d'accord. Elle y est, de toute façon, elle est organisée.
Et puis,
les stades vont être quand même climatisés, etc., ou chauffés, etc. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de rentrer dans les gens et de vouloir imposer. Moi, je suis contre la dictature telle que, peu importe d'où elle vient et où elle est, l'ingérence dans la vie des gens, c'est épuisant. Stop.
Cédji est avec nous, il nous appelle de l'Isère. Bonjour, Cédji.
Bonjour, équipe.
Bonjour,
Cédji. Allez, je vous pose la question. Si vous avez un SUV et que vous voyez quelqu'un dégonfler le pneu, qu'est-ce que vous faites? Vous allez discuter avec lui en disant qu'il fait une bêtise ou
un bisou? Pas.
Moi, concrètement, j'en vois un qui est en train de me dégonfler.
Ouais.
Je le dégonfle.
Ah oui, d'accord.
C'est le premier réflexe. C'est le premier réflexe.
Est-ce que la personne qui fait faire du gueule?
Et j'ai un SUV. Je suis radical parce que lui aussi, il est radical avec moi. Mais il ne comprend pas pourquoi j'ai un SUV. J'ai un SUV parce que je vois qu'il y a tous mes enfants dedans. Et ce qu'ils prennent, en charge, les monospaces. Les monospaces consomment aussi autant que des SUV. Bon, après, on peut avoir un SUV avec un V8, un V12, etc. Ouais. etc. Moi, mon SUV, j'ai pas le choix que d'avoir un V6 dedans. Mais c'est le seul moteur qui puisse le tracter.
C'est joli, déjà.
Moi, concrètement, j'ai pas le choix aujourd'hui que d'avoir un véhicule 7 places
pourquoi
sur cette occasion. Parce que j'ai tous mes enfants à caler dedans. Ça va faire quoi sinon? Je vais poser un tel à l'école. Je vais revenir, rechercher lui à l'école. Aller chercher lui à midi. Repartir là-bas. Je vais encore plus polluer que si je faisais d'une traite tous mes trajets. Là, je pose mes enfants à l'école, je vais à mon boulot, je reviens les rechercher et c'est terminé. J'ai pas d'aller-retour à
faire.
Mais sauf que quand on dégonfle votre SUV, c'est contre votre véhicule. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on se dit, ouais, lui, il a un SUV, il doit être tout seul dedans, il n'a pas à circuler avec ça en ville. Aujourd'hui, c'est polluant, ça occupe de l'espace. Voilà ce que l'on dénonce aujourd'hui, Cédji.
Bien sûr, mais justement, ces gens-là ne font pas la part des choses. Et c'est ça, en fait, qui est malheureux. Ils font pas la part des choses. En fait, ils mettent tout le monde dans le même sac. Moi, aujourd'hui, et je suis sûr que je suis pas le seul à être dans cette situation-là. Dans ce cas-là, il y a un SUV pour justement transporter tous ses enfants. J'ai quatre
enfants. Combien vous avez d'enfants?
Quatre enfants.
C'est bien. C'est un bon chiffre.
J'ai ma femme qui est avec moi et de temps en temps, je vais chercher la grand-mère, chercher le papy et à chaque fois, soit eux ils prennent leur voiture, donc ça fait deux voitures. Parfois même toute la famille.
Et puis acheter un autobus aussi.
Là dans la région où je suis, c'est compliqué. C'est compliqué. Sur Lyon, c'est facile de prendre les TCL. Sur Paris, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ma région, c'est compliqué de prendre le bus. Donc il nous faut. On fait partie des régions où il nous faut essentiellement la voiture. Si on n'a pas la voiture, on vit pas.
Ça peut susciter des attitudes très violentes. J'imagine certaines personnes. Et encore, je trouve que dégonfler, c'est moins grave que crever, quoi.
Non, mais moi je pense pas qu'on changera la société en montant les uns contre les autres. C'est pas
possible. Ce que disent ces dégonfleurs de pneus, c'est au moins c'est une alerte. C'est pousser à la réflexion.
Ah oui, c'est vrai.
Le mec en débat. Là, du coup, on en débat pendant. Un quart d'heure.
Le mec qui a dégonflé les pneus, la seule réflexion qu'il va avoir, c'est comment je peux le rattraper et lui casser la tête.
Regarde, excuse-moi, il y a que de la violence qui sort de nos propos. Moi, je t'ai dit si tu. C'est même pas mon véhicule. Si tu fais ça, un véhicule, même quelqu'un que je connais pas, je vais t'éclater la tête, en fait, parce que c'est dangereux pour la personne qui est propriétaire du véhicule. Donc, Mourad, pareil, Cédji, pareil, ça engendre quoi? Que de la violence, c'est pas du dialogue, en fait. Quand tu fais de l'ingérence et que tu te permets de rentrer dans la vie des gens et de leur imposer quelque chose, tu engendres de la violence.
Et il faut arrêter de penser que parce qu'on est plus de deux, on est majoritaire, quoi.
Merci à Cédji d'avoir été avec nous. On va en parler avec Sully dans l'Aube aussi. Bonjour, Sully.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, et vous, qu'est-ce que... Alors, je vous pose la question, si vous êtes, si vous avez un SUV et que vous voyez quelqu'un qui dégonfle le pneu du vôtre ou quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous faites?
Je lui fais un bisou.
Vous allez faire, vous allez dialoguer ou pas?
Je pense que je ne serai pas aussi gentil que certains, mais je vais pas aller dans la violence. On va essayer de discuter éventuellement. Mais
il va déjà le regonfler pour commencer.
Est-ce qu'ils veulent bien discuter? Ça, c'est autre chose. Ouais, mais bon, ça. Voilà. Moi, j'ai un véhicule. J'ai un 5008. Je vois que au niveau consommation, je consomme quand même moins que mon véhicule que j'avais avant, c'est-à-dire un C4 coupé de 2006, il me semble. 2004,
ouais, 2006. Pas, c'est trop technique.
Les véhicules actuels consomment moins, effectivement.
Ah, oui, consomment beaucoup moins. Et en sachant que moi, je roule à l'éthanol.
Ah, en plus.
Ah oui.
Oui, voilà. Mais vous voyez, le dégonfleur, il fera pas le.
Non. Il fera pas la différence.
Non, il fera pas la distinction.
Je vais,
donc
pas, mettre, je vais pas mettre un panneau écrit que je roule à l'éthanol sur mon véhicule. Et
heureusement. Hein.
Vous avez qu'à mettre un grand. Oui, c'est vous écrivez éthanol sur la portière.
Oui, non, mais bon, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on s'attaque. Et beaucoup de gens en parlent, justement, de ces véhicules, des SUV. Ouais. Mais ils font pas la différence entre les gros 4x4 d'avant et les 4x4 d'aujourd'hui qui sont pas du tout.
Ils sont autorisés pour l'instant.
Oui, mais je lisais tout à l'heure ce que dit un des militants là qui dégonfle. Il dit c'est aussi pour ces véhicules plus de ferraille, plus de caoutchouc, plus de temps de fabrication. Voilà, c'est si vous voulez, c'est symbole.
Il a une délégation d'autorité publique pour décider.
C'est ce que ça représente aujourd'hui ce SUV, quoi.
Ouais. Après,
c'est plus
après,
de conneries aussi de sa part.
Après, moi personnellement, bon, j'ai acheté ce véhicule. Bon, moi, je vis en métropole, mais mes parents vivent à l'île de la Réunion. Donc, ils viennent de temps en temps en métropole avec mon oncle.
Ça vous permet de prendre
un
tout le monde.
Un véhicule de cette place. On peut mettre tout le monde dans le véhicule. On n'a pas besoin de récupérer un deuxième véhicule ou un deuxième véhicule
comme vous dites,
et partir en
vente. D'accord, mais la majeure partie du temps, vous êtes seul dedans.
Ben seul avec ma famille de 4 personnes ou mes beaux-frères, souvent, on part ensemble en week-end. Ben on vient tous dans le véhicule.
En fait, c'est la voiture, c'est elle collective.
Ah ben, Jésus dit, on faisait pas ça plusieurs.
Mais j'espère qu'il m'a dit...
Ah ben, quand on va au restaurant, et on va tous ensemble dans le même véhicule.
Voilà, on prend une voiture.
Bah oui.
Enfin, prenez les transports en commun, Sully, ça vous fera du bien. Mais
arrête de l'emmerder, il a le droit d'avoir une voiture.
Il faut avoir les transports en commun aussi.
Exactement.
Moi, par exemple, c'est pas moi qui utilise ce véhicule-là, c'est ma femme. Moi, j'ai un autre véhicule, mais...
En plus, ça vous a gravé votre cas, là.
Sully, franchement...
Allez, vous dégonflez.
Tu vois, c'est la femme qui a le SUV, je vous dis.
Ma femme, quand elle part travailler, elle part à 7h du matin, il n'y a pas forcément les bus, et là où elle travaille, elle est obligée de prendre le véhicule pour y aller. Moi, qui travaille à 35 bornes de chez moi, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus là où je vais travailler.
Vous avez quoi comme voiture, vous?
Moi, j'ai un Ford
un avion. Focus
éthanol.
Éthanol?
Ah bah c'est bien,
oui, mais il est à l'éthanol.
Bravo. C'est simple, je roule qu'à l'éthanol.
Mon cher Sully, vous êtes un héros moderne de notre société.
Non, mais c'est un bon
héros. Le héros de la France 2022. Vous avez un col roulé, Sully, aussi, ou pas?
Pas de col roulé, mais je vais y penser, parce que quand on voit le prix du pelé, parce que moi je me chauffe au pelé,
en plus,
j'ai que ça comme chauffage dans ma maison.
Et vous allez pelé, oui.
Je vais passer de 600, parce que je voulais intervenir là-dessus aussi, mais je vais passer de 600 euros par an à plus de entre 1200 et 1500 euros.
Ouais. Ah ouais, ça double.
Double, voire triplé. Ouais, hein, ouais. Dans certains endroits, c'est 11 euros le sac au lieu de 4,50 euros. Mais comment on peut passer de 4,50 euros à 12 euros? C'est pas possible.
C'est un des mystères de l'économie d'aujourd'hui.
Cher Sully, merci. Vous aurez conclu notre
peu, il serait vite résolu.
C'est un bon élève, en tout cas.
Ouais,
c'est un très bon élève.
Bravo.
Deux voitures à l'éthanol, chauffage au pelé,
et il transporte sa famille.
C'est lui qui fait voiture collective.
C'est courageux.
Il va lui crever le pneu. Non, mais attends, sans déconner.
Sully, quand même, citoyen d'honneur.
Oui, c'est vrai.
Des GG aujourd'hui.
Par rapport à Mourad,
il pourrait être écolo. Hein. J'espère qu'il ne fait pas de barbecue, comme ça, il est parfait.
Ouais, voilà. T'as pas de viande.
T'as pas de voiture, toi.
Si, j'ai une voiture. Ouais,
t'as une voiture et une moto et t'as pas d'enfant. Non, mais attends.
Et il applaudit les dégonfleurs.
Non, mais attends.
Non, j'applaudis pas, je vous dis, il s'était trompé de combat. Après, voilà. Mais de toute façon, tu changes pas la société en envoyant des fleurs. Faut arrêter aussi, à un moment donné.
Les dégonfleurs de SUV, est-ce qu'ils vont trop loin? Question qu'on a posée sur les réseaux sociaux.
Oui, la majorité.
Suspense. Combien?
88%. Ben oui.
Voilà. C'est bizarre. C'est comme étonnant.
Allez, à suivre avec les GG, avec les grands gars, notre GG, c'était match. Les Français se plaignent-ils trop?
Mais oui.
Venez en parler au 32-16 avec nous.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Ah, bien sûr, on tient un rêve.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Soir. Attendez, pause, vous étiez en train de parler de quoi là? Parce que du coup, on vous a un peu entendu dans les
micros. On était en train de dire qu'on rêve d'avoir un nom, enfin une rue à notre nom. Voilà, l'allée Mourad Boudjelal à Toulon.
Le stade, ça aurait pu.
Le stade, ça pourrait faire ça. Bruno Poncet pourrait avoir une gare à son nom, la gare Poncet.
À Verzon, ça me ferait. Moi, ça serait vraiment.
Et Cahoutère, on pourrait rebaptiser le vélodrome.
Le vélodrome, c'est pas terrible.
Le vélodrome,
c'est la bonne mère.
La bonne mère. Tu vois, tu te deux. Non, moi, tu vois, je reste humble. Un immeuble, ça ira.
Un immeuble.
Un squat.
Et à Nice, la promenade des Anglais, on pourrait la rebaptiser.
Minimum.
La promenade Marshall. Rebaptiser la ville. Ville de Nice, Trédur, Marshall.
C'est pas mal.
Et toi, mon cher Olivier?
Moi, j'ai une place, une petite place à Paris.
Dans le 7e?
Non, pas
on
forcément.
On va en parler à Rachida.
Alors, on évoquait ces Français qui, paraît-il, se plaignent trop quant au regard de la situation de notre pays.
RMC.
GG, 7 et match.
Les Français se plaignent-ils trop quand on regarde notamment les chiffres de l'inflation à l'échelle européenne? Les Français s'en tirent mieux que les autres. Quand on regarde les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour maîtriser cette inflation, les Français s'en tirent mieux que les autres, à un point tel d'ailleurs qu'aujourd'hui on a bon nombre de voisins européens qui viennent faire leur plein ou leur course en France. Mais le Français est toujours là, en train de râler, vouloir des chèques, c'est jamais assez. Les Français se plaignent-ils trop? On a deux équipes face à face. Non pour Cahoutère et Bruno. Oui pour Mourad et Olivier. Cahoutère et Olivier.
Cahoutère.
Allez, on y va. C'est parti. C'est monsieur.
Boudjelal.
Il est temps.
Mourid. Tout ça.
Peut-être qu'il aura marqué 6J simplement.
Peut-être un EHPAD à tout le monde.
Allez, monsieur Mourad Boudjelal, c'est à toi de prendre la parole en premier. Oui, les Français se plaignent trop.
Oui, je pense. Alors d'abord, je ne dirais pas qu'on s'en sort mieux, on s'en sort moins mal que les autres. Mais effectivement, la France est un pays, pour moi, magnifique. Et vivre en France, c'est une véritable chance. On est protégé dans ce pays, comme dans très très peu de pays sur cette planète. J'invite tous les Français, lorsqu'ils voyagent, et lorsqu'on rentre chez nous, on se dit, on est quand même pas mal chez nous, quand on voit tout ce qui se passe ailleurs, comment on est traité. On a une protection sociale extrême. Quoi qu'il nous arrive, on a un gouvernement qui est un petit peu comme papa, qui va nous aider. Alors, je parlais de droit social. Quand on est salarié, si vous faites des enfants, vous êtes pris en charge. Si vous vous mariez, vous êtes pris en charge. Si vous avez un décès, vous êtes pris en charge. Si vous perdez votre emploi, vous avez une protection pendant au moins un an et demi sur le chômage. La France est un pays magnifique. Il faut en avoir conscience aujourd'hui. Voyagez, regardez comment ça se passe ailleurs et vous direz, putain, qu'est-ce qu'on est bien dans ce pays.
5, voilà.
Et on vous offre en plus 5 secondes.
Parce que vous manquez d'arguments.
1,
0.
C'est tellement évident.
Tout ce que tu as dit, Mourad, bien sûr que notre pays est formidable et il faut se battre pour le maintenir. Sauf que quand tu dis, vous avez un enfant, on vous prend en charge. Non, nous prenons en charge. C'est un système de cotisation que nous finançons. C'est pas un cadeau. L'État, c'est nous.
Non, je pense que tu connais pas bien le droit social. Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui emploie 100 personnes, s'il est 100 femmes, s'il est 100 tombées enceintes en même temps, il dépose le bilan.
Oui, mais il n'y a pas 100.
Parce qu'il n'y a qu'une partie qui est prise en charge.
Non, mais c'est un scénario. Si tu peux le permettre, je vais te
même
répondre.
Même au ministère du Travail, ils l'ont.
Je te donne un exemple, c'est une métaphore.
C'est ce qui n'existe pas, pardon, dans ta tête, mon cher Mourad. Dans la réalité, moi, je peux te garantir que j'ai travaillé dans des entreprises où, quand tu étais une femme, on te demandait si tu étais en couple, si tu envisageais de faire un enfant, parce que quand tu tombes enceinte, c'est discriminant aussi à l'embauche. Mais ce n'est pas le sujet. Parce qu'il n'y a pas une protection suffisante
aujourd'hui, pour l'employeur.
Nous protégeons, parce que depuis des décennies, il y a un système qui a été mis en place, et on remercie ceux qui l'ont mis en place, de cotisation, où nous protégeons quand nous avons un accident de parcours ou quand nous avons des enfants. Ceci étant dit, c'est pas les Français qui sont surprotégés ou les Français qui se plaignent trop. Pourquoi les Français se plaignent? C'est ça la vraie question. Parce qu'aujourd'hui, les Français qui travaillent dans leur grande majorité, on ne parle pas d'une élite protégée ou surbien payée, les Français qui travaillent ne peuvent pas vivre de leur salaire décemment et ne peuvent pas vivre de leur retraite décemment. Et que donc aujourd'hui, pour les faire taire, parce qu'on ne les augmente pas assez et au même niveau que l'inflation depuis des années, on leur donne un petit chèque par-ci, un petit chèque par-là. C'est pas des chèques, on n'attend pas du gouvernement qui nous donne des petites miettes par-ci, par-là pour nous faire taire. Moi, j'attends de notre gouvernement, nous attendons de notre gouvernement que quand tu es privé d'emploi, parce que les chômeurs, c'est des personnes qui sont privées d'emploi, on puisse avoir accès à un emploi, parce que pas tout le monde n'est entrepreneur dans sa tête, pas tout le monde n'a le caractère d'entreprendre, n'a le courage d'entreprendre ou les compétences d'entreprendre, mais que tous les habitants de notre pays aient accès à un emploi digne qui leur permette de vivre de cet emploi. Alors, c'est ça qu'on demande. Et quand on aura ça, on ne se plaindra plus.
Tu voulais des arguments sérieux. Moi, j'ai pris des chiffres dans le très bon magazine Challenge cette semaine, justement. Il se pose la question, est-ce que finalement l'État nous protège assez ou pas assez ? Et il y a des chiffres quand même qui sont sidérants. Les mesures anti-inflation qui ont été prises par ce gouvernement entre 2021 et 2023, c'est 103 milliards d'euros sur la table pour nous protéger, pour faire en sorte qu'effectivement
aussi, hein.
L'inflation soit main forte. Les prestations sociales en France, tu sais combien c'est les prestations sociales ?
Combien ?
C'est un record quasiment au monde, je pense que c'est même un record, 763 milliards
d'euros. C'est l'argent
de qui ? 763 milliards d'euros de prestations. La France fait beaucoup mieux que la plupart des pays de l'OCDE, et c'est pour financer, bien sûr...
Parce que les salariés coûtent plus qu'ailleurs, mon cher Olivier.
C'est l'argent des salariés, c'est les
patrons. La France, en congé payé. En congé payé.
Et en congé maladie.
Jour férié.
Et en
congé maladie.
Congé et jour férié. Congé, jour férié, durée légale. En France, 36 jours par an. L'Espagne, c'est 36, pareil. L'Italie, 32. L'Allemagne, 29. Royaume-Uni, 28.
Et les congés
Japon, 26.
Et les congés maladie.
Pardon. On a plus de prestations sociales qu'ailleurs. On a plus de congés qu'ailleurs. On part à la retraite
plus tôt
qu'ailleurs. On est mieux soigné qu'ailleurs. Et tu es en train de nous dire, on a raison de se plaindre.
Oui.
Vraiment. Et non, mais
je te dis, non, mais excuse-moi.
Donne-moi des chiffres. Donne-moi des
chiffres. Mon modèle de société, c'est pas là où ça va moins mal que moins bien que chez moi. Excuse-moi, comme tu l'as dit, Mourad, tu as commencé par ça. C'est pas qu'on est mieux, on est moins mal. Moi, mon modèle de société.
Les autres, oui.
Mon modèle de société, c'est de vivre mieux collectivement.
Excuse-moi du terme, tu es dans le misérabilisme.
Non, pas du tout.
Moi, je pense que dans ce pays, aujourd'hui, on met en place.
Je peux pas terminer mon propos. Non, parce que d'entrée de jeu, dès que tu as terminé, tu as dit 5 secondes, mais tu en as repris 30 derrière. Ceci étant dit, oui, mais c'est un débat. Quand je vous coupe, il faut pas, mais quand vous me coupez, vous pouvez. C'est merveilleux. Ceci étant dit, il faut que les personnes qui travaillent puissent vivre de leur salaire. Et quand elles vivront de leur salaire, il n'y aura plus de... Quand tu parles d'inflation, les mesures qui ont été prises, excuse-moi, depuis quand le salaire n'a pas été indexé sur l'inflation ? Depuis combien de décennies ?
Pour ton information, on ne va pas parler des grandes entreprises, le salaire d'un salarié est indexé sur une rentabilité. Donc, il faut aussi que la rentabilité augmente pour augmenter les salaires. Il n'y a pas d'argent magique. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, il faut en être conscient. Il ne suffit pas de dire il faut augmenter les salaires pour qu'ils augmentent. On ne peut pas faire marcher la planche à billets. Aujourd'hui, l'entrepreneur qui réalise X de chiffre d'affaires avec tant de marge, il va indexer ses salaires par rapport à ce chiffre d'affaires et à cette marge. S'il n'y a pas d'augmentation,
je ne te parle pas des entrepreneurs.
La deuxième chose, c'est que toi, tu es dans les aider les gens, effectivement, qu'il y a des gens qui ne sont pas des entrepreneurs. Je suis d'accord. Mais moi, à l'inverse de toi, à contrario, je dis qu'il faut d'abord aider ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui créent des emplois.
Et pourquoi
parce
à l'inverse
que
de moi ?
Ceux-là créent des richesses, vont créer des richesses pour le pays, pour aider. On ne peut pas être
pourquoi
que dans
l'inverse
la situation. Il faut d'abord aider ceux qui créent, ceux qui enrichissent, de façon à ce qu'on puisse distribuer. Et toi, tu es dans le raisonnement inverse, c'est de dire, il faut aider en priorité tous ceux qui
ne
peuvent pas.
Pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit.
Aider, accentuer ceux qui entreprennent, de façon à distribuer par la suite.
J'ai dit qu'il fallait payer justement.
Pas de richesse, tu distribues que la misère.
Mais j'ai dit qu'il fallait payer justement les gens.
Et ça, c'est facile à dire, c'est des mots,
mais
ça,
non,
Bruno.
Toi,
c'est
tu des parles mots. Des entrepreneurs, moi je te parle de Carrefour, je te parle des grosses entreprises.
Laisse parler ton
c'est comme Poncet. Le commerçant qui te dit, moi j'ai envie d'avoir mon magasin plein tous les jours. Ben oui, il a envie, mais comment il fait ?
Bruno Poncet.
Mais tout à l'heure, juste pour répondre à Olivier, ce qu'il disait sur l'histoire, tu sais, des parapluies, des parachutes là, pour protéger sur l'augmentation de l'énergie. Et aujourd'hui, ils sont obligés de faire des chèques parce qu'ils ont fait une mauvaise politique depuis des années. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es pas capable d'être en autonomie de ta production d'énergie, à partir du moment, tu vois, que...
En Allemagne aussi, ils sont pas autonomes, ils ont fait des mauvais choix, se sont rendus dépendants du gaz russe. Oui. Ils ont moins d'aide que chez nous.
Mais les Allemands. Contre, tu vois, le fait qu'aujourd'hui, le gaz russe, il court toujours après. Et tu vois, c'est un premier sujet aussi. Parce
alors, est-ce que les Français râlent trop?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, c'est que les Français râlent beaucoup, mais surtout, c'est ceux qui travaillent qui râlent. Et ça devrait pas être le cas, parce que moi je pense qu'à un moment donné, quand tu commences à râler, et que ceux qui râlent, c'est ceux qui ont des petits salaires mais qui travaillent et qui râlent, et le problème c'est que alors ils râlent au lieu de râler contre leur gouvernement qui a pris des mauvaises décisions stratégiques en tuant l'industrie française, tout ça, ils râlent contre le mec qui a des minima sociaux alors que le mec qui a des minima sociaux, il vit pas mieux avec ça. Ils râlent que pour contre le riche alors que le riche, bah comme dit Mourad, et Mourad c'est un exemple aussi sur ce sujet-là, en tout cas, c'est que bah il crée des emplois, il crée de la richesse, et donc il redistribue aussi ce qu'il crée. Donc et moi je trouve qu'aujourd'hui, à force de tendre les gens les uns contre les autres, on n'arrive pas à parler d'une même voix et on n'arrive surtout pas à avoir un vrai collectif. Or aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment, dans les situations où on est maintenant et dans des situations de crise, qui est quand même, la situation de crise qu'on vit aujourd'hui, elle a été créée quand même par des choix gouvernementaux depuis des années. D'ailleurs, Olivier parlait aussi, on parlait de l'énergie, mais on pourrait parler de tout ce qui est service public que l'État a abandonné pour le privatiser, pour le rendre plus cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu gagnes 1300 balles par mois, et là où avant ton école était gratuite, tes soins étaient gratuits, il y a quasiment plus de gratuit que tu travailles.
Je te prends au mot. Effectivement, montons les salaires, mais dans ce cas-là, on baisse les prestations sociales parce que
le
problème, c'est pourquoi on a des salaires plus bas en France. C'est parce qu'on a des salaires qui sont très imposés, qui sont très chargés, parce qu'il faut effectivement financer notre système de protection et qui, en plus, on voit bien qu'il prend l'eau ce système de protection. On se plaint de l'hôpital, on se plaint de plein de choses.
Mais pourquoi ça prend l'eau, Olivier?
Donc peut-être que prenons un peu moins en français, taxons un peu moins le travail,
misons tout sur la consommation plutôt que taxer le travail.
Les gens vivront de leur travail.
La discussion va continuer. Petite pause.
L'argent, il va partout.
C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Pause. Dans un instant, on va continuer.
Ça me fait pas peur. J'en ai pris quelques-uns.
On va discuter avec Christophe, qui est des Pyrénées-Orientales, Jérémy du Loir-et-Cher. On va regarder où on en est dans la consultation. Les Français râlent-ils trop? 58-42, oui, pour l'équipe Olivier Mourad. Bah c'est quand même, 58-42.
C'est pas facile pour nous. Hein.
C'est pas un petit oui.
C'est pas facile.
On continue la discussion avec Christophe et Jérémy dans un instant.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Français se disent habitants d'un enfer alors qu'ils vivent au paradis.
Oui.
C'est
Sylvain Tesson.
Comment ?
Sylvain Tesson, c'est ça.
La petite phrase qui revient régulièrement, où on oublie peut-être le pays dans lequel on vit, la chance qu'on a d'avoir un État protecteur. Est-ce que les Français râlent trop ? Christophe, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Christophe des Pyrénées-Orientales, professeur d'histoire-géographie. Alors, les Français râlent-ils trop, oui ou non ?
Oui, globalement, oui, quand même. C'est vrai que c'est un écho qu'on a souvent. Ben, dans vos émissions, vous participez beaucoup à donner la parole aux auditeurs et si vous faites...
Eux, au râleur.
Ils jouent d'archives, ouais.
Ceux qui ne râlent pas ne nous intéressent pas.
Le nombre de gens qui téléphonent pour se plaindre, quoi. C'est fascinant, quoi. À Las Vegas, il y a une reproduction de la Statue de la Liberté. Nous, on devrait reproduire le mur de lamentation en France. C'est souvent, c'est quasiment systématiquement le cas. Et c'est vrai qu'on ne se compare pas, quoi. On ne se compare pas et c'est surprenant, quoi. Pourtant... On a quand même les informations pour se comparer et on ne se compare pas avec des situations. Mon grand-père a fui la guerre d'Espagne et moi ça m'a marqué quand j'étais petit, chaque jour, chaque matin il se levait, il disait merci la France, quoi, parce que mon pays n'a rien fait pour moi, mais ici il y a plein de choses, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a perdu, ça, et ça me désespère un peu souvent, parce qu'on a plein de choses et on ne s'en rend pas compte, ça fait un peu enfant gâté, je trouve. Et parce que vous voyez des chiffres, là, vous voyez, par exemple, vous disiez le bouclier tarifaire. Les Français s'en moquent, ils vont juste regarder le fait que l'essence augmente, quoi. L'essence baisse, elle baisse, oui, mais c'est pas assez. D'accord, ils ne regardent pas qu'ailleurs, c'est une horreur, quoi. En Espagne, c'est plus 50% le prix de l'électricité.
Je regardais les chiffres de l'inflation. En zone euro, la moyenne, c'est 10%. On est à 5,6%. On est aujourd'hui le pays qui connaissons l'inflation la plus basse. Par exemple, aux Pays-Bas, c'est 17%.
Ouais, mais comme tu disais, ils sont beaucoup mieux payés. Aux Pays-Bas, ils vont très bien.
Oui, c'est vrai, ils sont bien payés.
En France, les prix ont augmenté beaucoup plus de 5,6%.
Non, mais en France, surtout l'état d'esprit, c'est que...
Le calcul est pareil partout, il n'y a pas de complot.
Mais Christophe, vous êtes à Perpignan, et vous en parlez autour de vous, c'est sujet à discussion, justement, ça, ou pas?
Oui, parce qu'il y a encore une fois, quand on croise beaucoup de gens qui se plaignent, quoi, et qui n'ont pas, je trouve, toutes les informations, quoi, notamment concernant l'inflation, quoi, ils mettent ça un petit peu sur le compte de spéculateurs. Certes, il y a ça qui rentre en jeu, mais il n'y a pas que ça. Il y a des éléments quand même qui sont factuels et qui sont indépendants de nous, quoi. Et il y a des choses qui augmentent, mais bon, on peut pas. C'est comme ça. Quand il pleut, on peut pas arrêter la pluie. Il y a des choses comme ça qui sont qui sont pas de notre ressort, quoi, qui dépendent de pas de nous. Et ça, c'est un peu gênant. C'est vrai qu'on a une énorme protection sociale en France. C'est vrai qu'on la paye. On la paye, mais on la paye aussi beaucoup avec de la dette, pour savoir, on dit au-dessus de nos moyens, quoi. 270 milliards, on va emprunter l'année prochaine, c'est un record.
Et ça, malheureusement, on
s'assoit dessus, toujours à la dette en France. Ouais. J'ai dit, bon, on verra les générations futures, paieront peut-être pas, c'est tant pis pour eux. Bah, écoutez, non, c'est pas tant pis pour eux.
Et avec une inflation galopante, la dette devient vraiment problématique.
Oui, parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, ça nous empêchera d'investir. Ça nous empêchera d'investir pour le
futur. Après, je vais reprendre une phrase célèbre de Kennedy, c'est-à-dire que ça serait bien que les Français se demandent ce qu'ils peuvent faire pour leur pays plutôt que ce que leur pays peut faire pour eux. Et il y a trop de gens qui attendent tout de l'État et qui se remettent jamais en question et qui estiment que ce qu'ils n'ont pas, c'est l'État qui leur doit.
Mais quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle du gouvernement?
Oui. Et oui, on pensait, attends, parce que je voyais Bruno lever les yeux au ciel.
Ouais, mais ça, c'est facile à dire.
C'est surtout difficile à faire.
Le vrai sujet, c'est que quand tu gagnes 1300 balles, que ta priorité, c'est de nourrir ta famille et tout, t'as pas le temps de penser que ailleurs c'est pire, que. Moi, j'entends le monsieur que son grand-père a fait la fuite des gardes. Ouais. J'entends tout ça, mais à un moment donné, quand ta vie, ton quotidien, c'est un combat pour essayer de survivre, je pense pas que t'aies le temps de te dire, ah bah ouais, mais c'est vrai que je devrais fermer ma gueule parce que, en Hollande, c'est 17% d'inflation. Non, les gens sont pas ça. Quand t'es dans un quotidien qui est dur, qui est violent, où tu subis de la violence tous les jours, tout le
monde
tu penses pas ça.
Tout le monde ne vit pas ce quotidien. C'est-à-dire que vous décrivez une France.
Il y a les gagnants du loto et les autres.
On a l'impression que tout le monde souffre.
Non.
Et qu'il y aurait une petite minorité. Il y a beaucoup de Français qui se débrouillent, qui vivent bien, qui partent en vacances.
Beaucoup, t'es sûr, Olivier?
Cet été.
C'est la majorité,
cet
tu
été,
crois?
Tout était complet, etc. Donc les Français sont partis en vacances. Donc il faut pas avoir une vision aussi misérabiliste des choses. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont pas
dans les mêmes endroits. C'est pour
non,
ça, peut-être.
mais à noircir le tableau, ça règle rien.
Non, je
noircis
pas.
On a l'impression que c'est Zola. Quand t'écoutes, j'ai l'impression d'ouvrir un livre de Zola.
Merci à Christophe d'avoir été avec nous.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces millions de personnes, parce qu'ils ne sont pas 1000 malheureusement, que ces millions de personnes, parce qu'elles ne sont pas majoritaires,
mais sur un pays de 67 millions.
Excuse-moi. Donc on les gomme en fait. Elles n'existent pas.
On n'a jamais dit ça.
Mais vous noircissez.
Tu penses que les patients du docteur qu'on a entendu ce matin, les patients, ils sont en train de se dire.
Moi, je dis simplement.
Quand même, on devrait quand même arrêter de se plaindre.
Je dis simplement qu'il faut aider ceux qui créent pour qu'il y ait une plus forte redistribution.
Mais il n'y a pas.
Redistribution.
Ça ne ruisselle pas.
Vous êtes pour l'assistanat. Je peux comprendre, ça vous arrange.
Mais
moi, je ne suis pas pour l'assistanat.
Je ne te permets pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit qu'il fallait que les gens qui travaillent vivent de leur salaire. Ça ne veut pas dire de l'assistanat.
Ça veut dire que le patron
qui s'enrichit sur la valeur que lui apporte son salarié, il redistribue.
Ouais.
Parce que moi, je différencie les patrons des grandes entreprises que les auto-entrepreneurs et les PME. Voilà.
Dans les grandes entreprises, ce n'est pas des patrons, c'est des salariés privilégiés. C'est différent.
Ça dépend.
Le patron, c'est celui qui parle de son argent.
Excuse-moi, quand tu es caissière à Carrefour ou quand tu es agent d'entretien à Carrefour, pour citer Carrefour, je peux c'était Leclerc ou Jacques Zou,
dans le sud d'abord.
Peu importe, quand tu es salarié d'une grande surface, excuse-moi, tu n'es pas bien payé, tu as des horaires pourris. On s'est beaucoup battu pour les caissières qui étaient mères célibataires, qui avaient des horaires hachés, qui gagnaient 800 balles par mois en tant que salarié il y a quelques années. Donc il faut arrêter. Moi, je ne mets pas dos à dos les gens, les Français, surtout pas. Je ne dis pas qu'il y en a un qui vaut plus que l'autre. Je dis que dans les entreprises qui vont très très bien, et donc des moyennes plus et des grandes entreprises, on pourrait redistribuer. Je crois que c'est Barbara qui nous disait ici que par trimestre, Carrefour, justement, faisait, je crois, 60 millions de bénéfices ou de chiffres d'affaires. Excuse-moi, ils peuvent payer leurs salariés un peu plus. Non, moi, je ne compare pas ce type d'entreprise aux petits entrepreneurs qui embauchent une personne.
Il faut rehausser le SMIC, on est tous d'accord. Tu mets le SMIC à 2000 euros. Explique-moi l'artisan qui a 3 salariés au SMIC, comment il va faire pour les payer 2000 euros? Moi, je voudrais savoir. Est-ce qu'on peut faire une loi pour imposer que le chiffre d'affaires de chacun augmente?
Ben écoute, moi c'est une question que tu poseras à ton bas perché, parce que du coup je vais être ridicule si je réponds, parce que je ne sais pas de quoi je parle, que j'ai pas créé d'entreprise. Par contre, 2000 euros, c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui en termes de SMIC depuis que la vie a évolué.
Alors déjà, si tu mets 2000 euros, ça veut dire que les 800 euros supplémentaires vont coûter au patron 1400 euros, 1450 euros. Il faut les retrouver dans le chiffre d'affaires et dans la marge.
Les gens ne vivent pas de leur salaire, les gens sont.
Alors je voudrais qu'on écoute Jérémy qui est dans le Loir-et-Cher. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors, est-ce que les Français se plaignent trop, alors?
Ouais, ben pour moi, je pense que les Français se plaignent trop. Alors après, faut être relatif aussi. C'est vrai qu'il y a des arguments qui sont audibles quand on dit que la France a un très bon système social, etc. Oui, ça, c'est des choses qui peuvent s'entendre, bien évidemment.
Surtout la SNCF.
par contre, il y a un argument qui pour moi, là n'est plus du tout audible. Et c'est celui que j'ai entendu dans votre émission, c'est le fait de toujours comparer avec les autres. Alors, sous prétexte qu'on s'en sort un petit peu mieux que les autres, on devrait ne pas réagir au fait que la situation se dégrade. Parce que pour moi, c'est quand même objectivement une situation qui se dégrade en France. Et donc, cet argument est pour moi est complètement inaudible. Et puis, je m'aperçois que les Français sont indignés dans le sens où... Où ils étaient dans la rue avec le mouvement des Gilets jaunes pour beaucoup moins, tout ça, pour une situation qui était beaucoup moins dramatique qu'aujourd'hui. Et puis, si on se place quand même dans un contexte historique, on a en France quand même nos ancêtres se sont quand même battus pour nos acquis sociaux, mais se sont aussi battus pour la souveraineté de la France.
Aujourd'hui, tout ça, c'est remis en cause.
Pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un système démocratique sans mettre sur la table la question de la souveraineté. Puisqu'aujourd'hui, on élit des gens qui n'ont pas le pouvoir. On nous a vendu l'Union européenne en nous disant que ça allait nous permettre de concurrencer les grandes puissances mondiales. Le constat, quelques années après, il est quand même sans appel, c'est qu'on n'a rien concurrencé du tout et on s'est jamais porté aussi mal. Donc là, il faut, je pense, se poser les vraies bonnes questions. Qu'en est-il de notre souveraineté ?
C'est pas qu'on se porte plus mal, c'est que d'autres grandes puissances sont apparues. C'est effectivement l'Europe a dominé pendant des années l'humanité, puis maintenant ça se déplace, notamment vers l'Asie. Il y a d'autres puissances. Et c'est pas lié. C'est pas lié à la construction européenne. La construction européenne, c'est une réponse à ça pour essayer de résister au fait qu'aujourd'hui le monde est dominé de plus en plus par les Chinois, les Indiens, les Américains, demain le Brésil.
Mais regardez les pensions en Grande-Bretagne, vous allez voir le Brexit.
La question que moi j'aimerais vous poser, en quoi l'Union européenne rend-elle la France plus forte par rapport à cette
situation ? Parce que ça semble effectivement plus malin de s'unir face à des énormes puissances économiques et politiques.
Mais c'est pas que ça. C'est en fini. Quoi l'Union européenne est souveraine aujourd'hui ?
Je vais pas faire
pour aller dans le sens de Jérémy.
C'est fini. Merci Jérémy. Vous avez lancé un autre débat. Oui. On le démarrera un autre jour, promis. Mais là, le temps
nous
est imparti et révolu. Terminé. On va regarder 55-45. Mourad et Olivier ont gagné. Les Français se plaignent-ils
trop ? Si on avait un peu plus de temps.
Tu me laisses un quart d'heure.
On a trop coupé la parole de Kauter.
Exactement, Kauter n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui.
Ma chère Estelle Denis, je vous en prie.
Ne pas assez parlé.
Rejoignez-nous donc.
Comment ça va ? J'ai pas vu l'heure.
Ah bah alors ?
J'ai pas vu l'heure. Et bah tout de même, j'ai couru quand même.
Alors, monseigneur,
faut pas...
54.
Jamais. Alors ça, c'est une règle. Ne jamais courir, sinon tu arrives essoufflé.
Et pas du tout. Je suis nickel.
C'est une machine.
Voilà.
C'est une machine.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans Estelle Midi ? De la menace d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée. Est-ce que ce serait la bonne solution ? On vous attend au 32-16. On parlera des restaurateurs qui veulent interdire l'usage des tickets resto dans les supermarchés pour les réserver uniquement aux établissements de bouche. Est-ce qu'il faut les soutenir ? Et puis le Conseil d'État qui autorise les élèves transgenres à porter le prénom qu'ils veulent à l'école. Bonne ou mauvaise idée ? 32-16, on vous attend.
Estelle, moi je te félicite.
Transgenre qui ?
Eh ben genre, tu t'appelles Jacques.
Oui,
tu veux t'appeler Estelle. Tu peux demander à ta prof de français de te rappeler Cécile. Ouais.
Voilà. Moi, j'ai
même si les parents ne sont pas d'accord.
Des exemples dans la classe de ma fille, ça existait.
Dans quelle classe ?
C'était l'année dernière, c'était au collège. Au collège, effectivement, un petit garçon qui voulait qu'on l'appelle par un prénom de fille et qui demandait à tous ses profs de l'appeler par ce prénom-là. Et donc, ça pose un
où est le problème ?
Mais s'il a commencé sa
transition. Où est le problème ?
Il a commencé sa transition.
Sauf que tu ne demandes pas aux parents. C'est-à-dire que les parents ne savent pas que le petit Robin, non. Il veut qu'on l'appelle Cécile.
Et les profs sont emmerdés parce qu'ils savent pas.
Oui, aussi, parce qu'ils se disent si c'est juste pour deux semaines, est-ce qu'il faut vraiment accéder. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet. C'est notre sujet de 14h dans Estelle Midi.
Cécile, pour réagir. Avec Estelle. Qui est avec toi aujourd'hui ?
Eh bien, écoute, on a Perico Légas, Benjamin Muller et Thierry Moreau.
Thierry Moreau, il veut qu'on l'appelle Louise.
Oui.
Il l'a dit juste avant l'émission, donc ce sera Louise Moreau. Voilà.
Estelle, moi, je te félicite parce que tu participes à un truc qui me tient à cœur. J'aurais aimé y participer, mais je l'ai su trop tard. Radio Resto du Cœur, ce week-end, ça commence ce soir.
Exactement.
Et bravo à toi, parce que tu y participes et à tous ceux qui sont à l'initiative de cette opération qui est nécessaire malgré l'inflation et les temps qui sont durs.
Malgré les Français qui se plaignent, tout ça.
Passez un bon week-end. Et nous, on se retrouve lundi avec Didier Giraud.
Et en Iran.
Didier qui veut qu'on l'appelle Josette. Josette Giraud.
Il a attaqué complètement aux hormones femelles.
Barbara Lefebvre, professeur en reconversion.
On l'appelle Jean-Pierre.
Elle peut nous appeler d'ailleurs,
et
Barbara,
Charles 14h.
Il veut qu'on l'appelle Barbara.
Allez, bonne journée, bonne émission avec Estelle et rendez-vous lundi 9h.